Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre les programmes RDIWA. Bienvenue dans cette quatrième émission Biotope, une émission produite alternativement par RDIWA et Radio Saint-Fé en partenariat avec le dispositif BioVallée. Aujourd'hui, nous vous proposons de lever le voile sur quelques éléments concernant la filière bois-énergie qui est, il faut le savoir, la première énergie renouvelable en France. Après la catastrophe de Fukushima, le mix énergétique sur lequel reposait toute l'économie mondiale a été ébranlé. Celui-ci, déjà bien fragile suite aux considérations écologiques et à la décrue prochaine et inéluctable de la production d'hydrocarbures, avait conduit à la relance dans beaucoup de pays du programme nucléaire réputé propre. Le dogme du nucléaire étant remis en question, et s'il était temps de se tourner encore plus vigoureusement vers les énergies renouvelables, et en particulier l'énergie bois, étrangement peu valorisée dans un pays comme la France, qui compte presque un tiers de sa surface recouverte par des forêts. Pour nous aider à répondre à ces questions, nous pouvons compter sur la présence sur le plateau de Mathieu Petit, chargé mission Bois Énergie de Fibois Dromardèche, la Fédération Interprofessionnelle Forêt Bois. Bonjour.
Bonjour.
Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez nous situer un peu pour nos auditeurs ce qu'est Fibois et ses missions ?
Donc Fibois est en fait une association qui derrière en fait regroupe tous les professionnels de la forêt puisque c'est une interprofession. Ses missions à Fibois, c'est d'accompagner la filière et d'essayer de promouvoir le bois dans plusieurs aspects, donc le bois construction et en particulier aussi le bois énergie. Donc Fibois existe depuis plus de 15 ans et rayonne sur la Drôme et l'Ardèche.
Seulement sur ces départements ou alors c'est un organisme national ?
Non, il y a des organismes à plusieurs niveaux. On a une interprofession du même ordre au niveau régional qui s'appelle Fibra et après on est décliné sur plusieurs interprofessions et donc nous on rayonne sur le département de Drôme-Ardèche.
Alors quelles sont vos missions ? Alors qu'est-ce que vous faites concrètement ?
Concrètement, moi par exemple je vais accompagner soit des producteurs ou des maîtres d'ouvrage concernant le bois énergie pour les conseiller, pour faire en sorte d'accompagner des projets du début à la fin. Pour les producteurs, ça va être de les suivre tout au long de l'année pour vérifier et les accompagner sur le combustible pour qu'ils produisent du combustible de qualité. Et pour les maîtres d'ouvrage, c'est de les accompagner pour réussir à réaliser une chaufferie bois dans de bonnes conditions et être approvisionné correctement pendant les 20 ans que va être installée la chaufferie.
J'ai vu un peu sur votre site qu'une de vos missions était d'arriver à faire une certification, un label pour tout ce qui est combustible, granulé, déchets de bois, enfin...
Oui, voilà, enfin, ça fait 10 ans. On a lancé une certification qui s'appelle donc Chaleur Bois Qualité Plus, qui donc sont des producteurs qui sont certifiés. Et derrière, on garantit en fait un service par le fournisseur pour les collectivités ou pour les propriétaires des chaufferies. Donc, c'est un service qui tient compte en fait de la qualité du combustible. Et puis aussi derrière, d'une réelle qualité de service, d'une disponibilité du fournisseur pour livrer le combustible lorsqu'il y en a besoin, d'une écoute, de pouvoir répondre aux attentes du client et à toutes ses interrogations. Donc voilà, c'est une certification qui existe uniquement pour l'instant en Rhône-Alpes. Et on a actuellement une vingtaine de producteurs, surtout Rhône-Alpes, de certifiés, dont une qui travaille sur le secteur du DIWA, qui est donc l'entreprise de M. Seignier, située à Aurel, là, qui s'appelle AVIRL. Donc cette certification, elle était uniquement pour les producteurs de bois déchiqueté. Et on est en train de l'ouvrir pour les producteurs de granulés. D'ici l'année prochaine, on aura aussi les producteurs de granulés qui pourront être certifiés.
Alors, Monsieur Petit, suite à l'introduction de cette émission, est-ce que vous feriez les mêmes constats concernant la politique énergétique française ?
C'est vrai que sur le territoire, notre plus grand souci, ça va être en fait du bois. On peut dire qu'on en a. Le plus grand souci, c'est d'arriver à aller le chercher, dans des bonnes conditions et à des coûts corrects, permettant de proposer un combustible, hein, pour ce qui concerne Bo-Energy, à des prix tout à fait raisonnables. Donc là, c'est vrai qu'on a des difficultés à trouver des moyens et des financements pour accéder aux peuplements qui sont les plus reculés, quoi.
Ben justement, ça tombe bien parce que je vous propose d'écouter Monsieur Tabouret du Centre Régional de la Propriété Forestière, l'occasion de faire un point sur l'histoire de notre forêt locale et de parler des missions du CRPF.
Le CRPF, ça signifie Centre Régional de la Propriété Forestière. C'est un établissement public régional chargé de conseiller les propriétaires de forêts privées pour tous les aspects de la gestion de l'espace forestier au sens très large du terme. Ça peut tout aussi bien aborder des problèmes d'exploitation forestière que des problèmes de pathologie forestière, de la législation sur les droits de transmission, les héritages, la fiscalité, la sylviculture en général, l'appui à la réalisation de travaux, le regroupement des propriétaires pour gérer en commun leurs forêts, enfin, tout ce qui touche de près ou de loin à la forêt, jusqu'à la production de champignons sylvestres ou de truffes. Alors l'organisme Andromardèche, donc nous avons un responsable qui est à Valence et trois techniciens qui sont répartis sur l'ensemble du territoire drômois, du nord, du centre et du sud du département. En ce qui me concerne, donc je couvre le secteur du Diois et de la partie basse de la vallée du Val-de-Drôme.
Donc vous connaissez bien les forêts qui nous avoisinent. Quel est le pourcentage de forêts qui relèvent du domaine privé et celles qui relèvent du domaine public ?
Pour le territoire du Diois, on peut estimer que le taux de couverture forestière, donc le pourcentage de forêts par rapport à l'ensemble du territoire, représente à peu près 70% de ce territoire, c'est-à-dire les trois quarts à peu près de l'espace du Diois sont couverts de forêts. Sur ces trois quarts de territoire, donc on estime que la moitié de cet espace appartient à des propriétaires privés, comme vous et moi, et que l'autre moitié appartient majoritairement à l'État ou aux communes.
Il paraîtrait que dans le Diois, l'essence majoritaire qu'on trouve dans nos forêts, c'est le pin noir. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit historique des forêts du Diois ?
Oui, alors le pin noir, c'est effectivement l'essence majoritaire pour les forêts publiques au moins. Pour les forêts privées, c'est le pin sylvestre qui domine. Alors, concernant l'histoire de ce pin noir, il y a une histoire qui date de plus d'un siècle maintenant. Si l'on se reporte donc dans les années 1850 à 1860, le Diois était une région très peuplée. La principale de l'activité économique était l'agriculture, avec beaucoup d'éleveurs qui avaient des troupeaux de moutons et des troupeaux de chèvres pour l'essentiel. Et on était donc à l'apogée de l'occupation de ce territoire. Et pour nourrir tous ces troupeaux et pour se chauffer aussi, les Diois, nos ancêtres, avaient exploité l'essentiel de la forêt. Le taux de couverture forestière était très bas. Dans certaines communes, il était inférieur même à 10% du territoire. Donc il y avait très peu de forêts. Il y avait beaucoup d'espaces agricoles et notamment d'espaces pastoraux et qui étaient en particulier entretenus par le feu. Une manière de tenir propre, d'éviter que les buissons repoussent, c'était d'y mettre le feu. Et puis, il y avait beaucoup d'animaux qui consommaient toutes les pousses végétales qui, dès le printemps, l'été, l'automne, enfin bon, il n'y avait plus grand-chose. Le fait d'avoir un très faible taux de couverture avec très peu d'arbres a entraîné des phénomènes d'érosion catastrophiques. Et ça, on en a retrouvé des archives assez extraordinaires dans l'histoire de notre patrimoine diois. Des parties de hameaux ont été emportées par des orages et des crues très violentes de petits ruisseaux qui, à l'heure actuelle, nous semblent insignifiants. Des ponts ont été emportés, les chemins ont été emportés, il y avait des morts, donc des catastrophes humaines assez sévères. Et ce phénomène a concerné tout le sud-est de la France, qui est la partie des Alpes du Sud, aussi bien les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence et la Drôme. Le Vaucluse aussi en partie, et le sud du Massif central. Pour lutter contre ces phénomènes d'érosion qui étaient catastrophiques, donc il y a eu une politique de l'État qui a été très sévère à l'époque, qui a consisté à soit à racheter, soit à exproprier les agriculteurs qui occupaient des terrains sur lesquels les phénomènes d'érosion étaient très actifs. Donc il y a eu beaucoup d'expropriations. Ces terrains ont été revégétalisés dans un premier temps avec des semis d'herbes, de graminées ou de buissons. Et puis des travaux de reboisement ont été réalisés dans un second temps, ainsi que des travaux de lutte contre l'érosion dans les torrents eux-mêmes avec la constitution de petits barrages en pierre sèche qu'on retrouve toujours si on se promène dans les ruisseaux du Diois. Donc le reboisement a été fait au début avec pas mal d'espèces forestières. Nos ancêtres forestiers ont essayé différentes espèces, dont des chênes pubescents par exemple. Il y a eu énormément d'échecs. Et puis dans des terrains très pauvres, très superficiels, ce qui est le cas de notre territoire, surtout à l'époque où il y avait beaucoup d'érosion, sur des terrains très riches en calcaire, donc le calcaire est un élément chimique qui pose des problèmes à une certaine partie de la végétation, et très riche en argile. Il s'est avéré qu'une des rares espèces végétales qui arrivait à survivre dans ces conditions de milieu très mauvais, mauvaise, c'était le pin noir d'Autriche, donc un résineux qui, comme son nom l'indique, a été introduit en provenance d'Europe centrale, de l'Est de l'Autriche en particulier, qui est très rustique, qui se contente de très peu, qui est résistant un peu au sec, résistant au calcaire, résistant aux argiles. Et progressivement, plusieurs dizaines de milliers d'hectares ont été reboisés à très haute densité par les populations agricoles du Diwa. Donc les gens avaient l'habitude en particulier de planter 1, 2, 3 plants par trou et de faire un trou tous les mètres. C'est-à-dire que les densités étaient extraordinairement denses, trop denses, mais enfin en tous les cas, l'objectif n'était pas à l'époque de produire du bois d'œuvre ou du bois de service, mais d'arrêter l'érosion, de revégétaliser les sols. Donc c'est l'origine de cette forêt de pin noir pour l'essentiel. Et puis petit à petit, cette forêt qui a été abandonnée un peu dans un premier temps, qui a été surveillée pour éviter que les troupeaux continuent à y passer et viennent consommer les arbres, mais n'a pas été vraiment gérée. Il se trouve qu'au bout de 30, 40, 50 ans, les arbres ont poussé évidemment, et que d'une forêt dont la vocation était uniquement la protection contre l'érosion, on est parfois arrivé dans des secteurs un peu plus riches, dans des secteurs où le sol s'était reconstitué, où l'humus était réapparu, en face d'une forêt qui produisait un bois. Et on pouvait utiliser ce bois. Il a été utilisé en particulier il y a une cinquantaine d'années en tant que piquet pour les vignes, les échalas, voire le piquet de mine. Et puis progressivement, il a été utilisé pour faire du bois de trituration, donc du bois pour faire la pâte à papier essentiellement auprès de l'usine de Tarascon. Parfois même pour faire des poteaux, PTT, poteaux EDF, à l'époque où les poteaux n'étaient pas encore tous en béton ou en aluminium. Voilà, c'est à peu près l'histoire et le devenir de cette forêt qui, je le répète, n'était pas à l'origine une forêt de production.
Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que, en tout cas pour la partie privée que vous connaissez bien, cette forêt est bien exploitée et bien entretenue ? Y a-t-il des reboisements, par exemple ?
Alors, pour la forêt privée, l'origine de la forêt est très différente. La forêt privée, pour l'essentiel, dans le secteur d'Iwa, a poussé sur des espaces agricoles qui ont été progressivement abandonnés par l'agriculture. Des terres qui étaient labourées mais qui étaient dans des pentes pas possibles. Des espaces parcourus par les moutons, et les moutons ont quasiment disparu de notre territoire eux aussi. Il faut s'imaginer, par exemple, que la montagne en face de nous, la montagne de Justin, était une montagne à l'intérieur de laquelle existaient des champs qui étaient travaillés, qui étaient labourés, des petits champs évidemment, des terrasses on va dire, et puis d'espace qui était parcouru par des troupeaux de moutons et des troupeaux de chèvres. Je me rappelle en particulier de mon grand-père qui est né avant l'an 1900, qui m'expliquait qu'il voyait courir un lièvre depuis Drôme en bas jusqu'à quasiment au pied de la Croix de Justin, parce que c'était un espace qui était relativement nu. Donc ces espaces agricoles qui ont été progressivement abandonnés ont très souvent été boisés naturellement à partir de graines de pin sylvestre, donc on appelle souvent le pin de pays ici, qui ont été transportées par le vent à partir de semenciers qui étaient répartis un peu de part et d'autre des limites de parcelles. Et l'essentiel de la forêt privée d'Iwoise est occupé actuellement par des peuplements de pin sylvestre de première génération. Donc, souvent, ces parcelles sont pures, il n'y a qu'une seule espèce qui domine, c'est le pin sylvestre. Mais si on regarde un peu ce qui se passe dessous, on s'aperçoit que d'autres espèces en deuxième génération commencent progressivement à se réinstaller. C'est le cas du chêne pubescent, donc c'est le cas de certains érables, érables sycomores, érables planes, érables à feuilles d'aubier, entre autres. Ça peut être du frêne aussi ou des tilleuls suivant les quartiers. Enfin, il y a un tas d'espèces qui progressivement reviennent occuper ce territoire.
Et donc, est-ce que ces forêts privées sont exploitées de façon rationnelle pour produire du bois ou de chauffage ou pour du bâti ?
Elles sont très rarement gérées au sens sylvicole classique du terme, c'est-à-dire au sens où on l'entend quand on va dans les écoles forestières, où on nous apprend qu'il faut éclaircir les arbres, garder les plus beaux, éliminer un peu les tordus pour laisser les plus gros se développer, les élaguer un petit peu pour faire du bois sans nœud, pour qu'ils poussent plus droit, pour qu'on puisse en faire du bois de charpente, du bois d'ébénisterie par exemple. Non, c'est pas le cas. La forêt privée dans le Diwa, dans sa grande majorité, pousse, on va dire, toute seule et n'est pas gérée au sens premier du terme. Il y a eu des travaux de reboisement qui ont été effectués dans les années 1980-1995, années au cours desquelles l'Europe avait attribué des enveloppes financières conséquentes pour améliorer la qualité de ces forêts méditerranéennes. Actuellement, ce n'est plus le cas puisque les crédits ont disparu et que donc cette forêt qui est peu productive et qui produit du bois de très faible valeur financière n'incite pas les propriétaires à trop investir d'argent, en tous les cas, dans leur domaine.
Est-ce que ce serait possible, à votre avis, de se chauffer avec le bois du Diwa ?
On a en quantité, la matière première bois couvre des surfaces très importantes et elle pourrait chauffer plus que le Diwa, bien évidemment, puisqu'avec un tel taux de boisement, on pourrait fournir du bois plus bas dans la vallée. Alors il y a quelques handicaps lourds quand même pour la forêt diwoise. Le premier, c'est le relief, évidemment. La forêt n'a poussé que là où l'agriculture n'a pas pu se maintenir. C'est-à-dire que lorsque l'espace est relativement plat ou assez facilement mécanisable, l'agriculture en général s'est maintenue. Ce sont des espaces agricoles travaillés, on fait des céréales, on fait du fourrage, on fait du pâturage, par exemple. Et les secteurs où les engins ne peuvent plus circuler, donc les pentes très fortes, c'est là que l'agriculture s'est retirée et que la forêt privée, en tous les cas, et même publique, a poussé. Donc on a des problèmes d'accessibilité qui sont très sévères. Le deuxième problème que l'on a, c'est que ces forêts sont peu productives, donc il y a des volumes à l'hectare qui sont assez modérés. Lorsqu'on coupe à ras un hectare ou deux hectares de bois, on ne récolte pas des volumes énormes de bois, de matière première bois. Enfin, c'est un bois qui est parfois de relativement plus faible valeur énergétique que certains bois comme des faillards, certains chênes par exemple. Mais encore ça peut discuter parce que les résineux, ramenés à la tonne au moins, ont un assez bon pouvoir calorifique quand même, notamment le pin noir d'Autriche. Le problème qu'il y a, c'est que lorsqu'on compare le tonnage d'une hêtraie du Vercors, par exemple, avec le tonnage d'une pinède, que ce soit du pin noir ou du pin sylvestre, le nombre de tonnes de matière sèche hectare n'est pas du tout le même. Donc on reste malgré tout sur un handicap par rapport à d'autres régions très productive. Mais pour répondre à la question, oui, on a énormément de matières premières bois sur le secteur et en tous les cas, on en a assez pour chauffer tout le pays.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour que nous puissions bénéficier de tout ce bois qui nous entoure alors ?
C'est une question d'argent en quelque sorte par rapport au prix des autres sources d'énergie actuelles parce que pour aller chercher du bois en forêt, l'exploiter, le débarder, le déchiqueter, le ramener sur une maison, le stocker dans un lieu d'approvisionnement pour une chaudière, ça coûte quand même pas mal et en tous les cas, ça coûte parfois aussi cher, sinon plus cher que d'autres sources d'énergie. Que ce soit l'électricité ou le fioul, c'est différent pour un agriculteur qui a lui-même sa propre matière première à disposition autour de ses champs. Mais on sait que le bois, pour le récupérer, c'est quand même énormément consommateur de temps, d'énergie, de main-d'œuvre. Et actuellement, dans la main-d'œuvre qui va en forêt couper du bois, pour même pour en faire de la plaquette, ça ne court quand même pas les rues. Et en tous les cas, il y a peu de propriétaires qui sont prêts à s'engager dans ce genre de démarche.
Y a-t-il des incitations fiscales proposées aux particuliers possédant des forêts pour exploiter leur bois ?
Il y a des incitations fiscales qui existent pour les propriétaires qui voudraient faire du reboisement, par exemple, puisque la loi a prévu que lorsqu'un propriétaire rase une forêt ou une parcelle, il est tenu d'assurer son renouvellement dans les 5 années qui suivent la coupe. Donc, soit le renouvellement se fait naturellement, soit le propriétaire pourrait s'engager dans des travaux de plantation un peu artificiels, on va dire, pour assurer ce renouvellement. Dans ce cas-là, effectivement, il y a des exonérations fiscales. En particulier, le propriétaire est exonéré de la taxe sur le foncier non bâti pendant 30 ans s'il fait un reboisement avec des résineux et pendant 50 ans s'il fait un reboisement avec des feuillus. Il exonère aussi l'impôt sur le revenu pour ces parcelles-là. Donc il y a effectivement un accompagnement fiscal pour les propriétaires qui voudraient s'investir dans leur forêt, mais à la fois la fiscalité sur la forêt est relativement basse dans nos régions, parce que la forêt rapporte très peu, donc la fiscalité est très basse. À la fois le coût d'un reboisement est très élevé. Un reboisement, si on veut replanter des pins, des cèdres par exemple, qui sont les espèces les plus faciles à faire pousser par plantation, il faut compter au moins 2000 euros de l'hectare assez rapidement. Après, on est exposé aux aléas du climat. On peut avoir des années de sécheresse comme celles qu'on est en train de démarrer et qui peuvent réduire à néant une plantation. On a des problèmes avec les animaux qui sont chez eux et qui peuvent parfois ravager en partie ces reboisements. Donc tout ça ne pousse pas toujours les propriétaires à s'engager très loin dans l'aventure du reboisement à leurs propres frais.
Je vous remercie, Monsieur Tabouret, d'avoir répondu à nos questions.
Et c'est avec plaisir.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Alors, Monsieur Petit, avez-vous une réaction à ce petit reportage ?
Moi, je partage presque tout ce qu'a dit, même quasiment tout ce qu'a dit mon collègue du CRPF. C'est vrai que c'est ici dans le Diwa du bois, on pourrait vraiment en faire chauffer énormément de que ce soit de bâtiments communaux ou même de particuliers à partir en broyant et en faisant dans les chaufferies. Le gros souci, voilà, c'est ça, c'est le relief qui est extrêmement difficile, qui permet pas forcément d'atteindre les peuplements et puis aussi la main d'œuvre hein, qui n'est pas en abondance quoi, on a du mal à en trouver.
Est-ce que ce serait pas justement symptomatique d'un non volontariste de l'État que de ne pas former suffisamment de forestiers ?
Ça, c'est pas tellement de ne pas former des que l'État ne veuille pas former des forestiers, c'est que ce métier en fait devient dans ces conditions très difficile, enfin assez difficile, et puis il a pas mal évolué. Maintenant, on a beaucoup de machines qui permettent d'aider l'homme à travailler en forêt, sauf actuellement, ces machines ne permettent pas d'aller dans ces types de peuplements avec des grandes pentes. Et donc, c'est pour ça que les bûcherons, en fait, ont de moins en moins de personnes veulent être... ils préfèrent tous partir avec des machines, quoi.
Développer la filière bois énergie, c'est d'abord de gérer de façon volontariste et rationnelle les surfaces boisées en France, et il ne semblerait pas qu'une volonté politique soit si clairement affirmée que cela en ce domaine. Est-ce que les fonds alloués à l'ONF ou aux divers organismes pour la gestion des forêts, est-ce qu'ils sont en augmentation en général ?
Alors ça, les fonds que perçoit l'ONF, je ne sais pas du tout s'ils sont en augmentation. Seule chose que je sais par exemple, c'est que les producteurs de bois énergie ont eux aussi des subventions qu'ils peuvent demander, que ce soit au département, à la région ou même au niveau européen. Et que ces subventions sont des subventions pour l'investissement de machines performantes ou de lieux de stockage. Et ces subventions diminuent chaque année. Donc on a effectivement un souci de ce côté-là.
Quand on regarde un peu d'où on est parti, hein, 10% de la surface boisée dans les années 1860, ils ont décidé à l'époque de faire un effort, ils ont mis les moyens. Pourquoi ne fait-on pas ça maintenant ?
Là, en fait... Pour le bois énergie, c'est vrai que les subventions... En fait, on a un petit souci, c'est que les subventions actuelles qui existent, il y a des grosses subventions qui existent, mais c'est pour faire des très grosses chaufferies qui vont consommer énormément de bois, qui va être du bois facile à aller chercher. Donc en fait, on sort complètement du cadre de nos communes en Drôme, quoi. On est sur des communes qui seraient en plaine avec du bois facile à aller chercher, peu cher, qui produirait énormément de chaleur, mais qui ne sont pas du tout adaptés. Et on est complètement délaissés presque, de plus en plus par les fonds de subvention pour des petites communes comme on a dans le Diois, qui pourraient, elles, très facilement, si elles étaient aidées, mettre en place une chaufferie et consommer le bois locaux avec des emplois complètement locaux, quoi.
Bien, avant d'aller plus en avant, je vous propose une petite pause musicale avec Bam Balam des Flaming Groovies.
She's my harem cutie from Hindustan. She's got big wet lips and a bam balam. When she shakes that thing, make for red hot swing. Baby, bam balam, bam balam. When she hoochie coo, all the fellas roar. Well, now come on, boys, what are we waiting for? Well, I know where I am when I see your bam balam. Baby, bam balam.
Vous écoutez donc Biotop sur RDIWA et sur Radio Saint-Férol, une émission en compagnie de Mathieu Petit de Fibois. Et donc Baptiste, je pense que tu avais une petite question à poser à Monsieur Petit.
Oui, on a parlé là d'argent, qui pourrait être placé sur différentes formes d'énergie dans la politique énergétique française. Et donc là, si on comprend bien, Fibois, mais toute la filière bois en fait, reçoit très peu de subventions.
Oui, nous Fibois, c'est vrai que mon poste en particulier, il est soutenu par le département de la Drôme, la région et même l'ADEME, donc au niveau de l'État. Donc ce qui me permet de me financer et d'accompagner tous les projets. Ce qu'on observe par contre au niveau des investissements, que ce soit pour des chaudières ou pour du matériel pour des producteurs, il y a 10 ans, quand c'était les belles années, on va dire, du bois énergie, où c'était le tout début, on pouvait arriver des fois jusqu'à 80% de subventions, que ce soit pour installer une chaufferie dans une commune ou pour qu'un fournisseur puisse commencer son activité. Actuellement, on tourne à autour de 30% de subventions. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, maintenant, l'État, que ce soit l'État, l'Europe, tout ça, ont décidé pour accélérer le mouvement. Alors, je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, surtout pour nous, mais de subventionner des très gros projets qui produiraient beaucoup, mais qui seraient sur des grosses agglomérations où on aurait vraiment des très grosses usines à chaleur, quoi, presque, pour remplacer à terme sûrement le nucléaire. Sauf que ces types de chaudières, ces types d'installations n'ont pas du tout lieu d'être ici chez nous, dans des petites communes, que ce soit comme Die ou même ailleurs, quoi. C'est là où on se retrouve, en fait, on avait une enveloppe qui diminue chaque année, donc il reste encore de l'argent, sauf que ramener à tous les projets de chaufferie ou les projets pour de broyeurs ou de plateformes de stockage, eh ben la part diminue de plus en plus. Si ça continue comme ça, on risque d'aller vers un autofinancement de la filière, quoi.
On n'est pas toujours obligé de compter sur l'État. Il y a heureusement des initiatives qui viennent d'en bas. Et d'ailleurs, je vous propose maintenant d'en suivre une petite association qui s'appelle Les Bonnes Énergies.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ce projet?
C'est une réflexion qui s'est passée au sein du groupe Europe Écologie Les Verts, de Die. Un constat, il y a de plus en plus de gens qui chauffent au bois. Et donc, les disponibilités locales sont en train de s'appauvrir de façon vraiment forte, quoi. Et donc, les bois arrivent. Une grande majorité, tout ce qui est faillard du Jura, de la Haute-Loire, de la région lyonnaise. Alors que autour de chez nous, on est entouré de forêts gigantesques. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas se servir de ce bois-là pour se chauffer? Le bois étant en l'occurrence du pin noir, dans l'esprit des gens, c'est un bois qui ne peut pas servir à la chauffe. Alors que plusieurs exemples montrent que l'on arrive tout à fait à se chauffer avec du pin noir et de façon équivalente et même avec certains avantages par rapport au faillard. On s'est dit, ça serait bien si on montait une association pour réhabiliter ce pin noir, arriver à faire comprendre aux gens qu'on peut se chauffer avec ce pain, ça favoriserait un circuit court et aussi dans le but à la longue de créer des emplois locaux.
Parle-nous un petit peu de l'association. Combien de personnes sont impliquées?
Ça fait 2 ans qu'un groupe d'une petite dizaine de personnes se rencontre régulièrement, font des études de marché pour savoir comment cela va fonctionner, quoi. Au début, on pensait que ça allait se développer très vite. On était dans des études de se monter en association et très vite en coopérative et de créer d'abord un tiers puis un demi-emploi pour cette activité, quoi. Bon, au bout de 2 ans, on s'aperçoit que les gens ne sont pas prêts actuellement à se chauffer avec ce bois-là, quoi. Et donc, on a revu les choses à la baisse. On s'est dit, on va d'abord commencer avec nos besoins à nous, c'est-à-dire pour le moment une 50aine de stères. Et on va avoir un rôle didactique sur tout ça, on va se faire connaître, on va faire des animations pour faire connaître notre activité et pour promouvoir ce bois.
Pourquoi ce bois de chauffe a-t-il mauvaise réputation alors ?
Il a mauvaise presse parce que bon, il n'y avait pas tous ces pins noirs dans la région. Hein. La présence du pin noir date de la fin du 19e et une grosse implantation au début du 20e. Avant, les gens ils brûlaient du faillard parce qu'il faut des bois pour la chauffe avec une structure dense qui tienne la chauffe. Donc il y avait du faillard dans le coin, on chauffait avec le faillard et depuis des générations et des générations, c'est comme ça, quoi. Le pin noir, s'il est mal séché, brûle mal, il brûle très vite. Des bois qui ont été récupérés au sol et qui ont séché au sol, donc qui ont une structure hyper légère, où il n'y a plus rien à brûler. Donc voilà, c'est de l'allumette, quoi. Mais un pin noir qui est coupé, débité et séché pendant 2 ans, 1 an en plein air, aux intempéries et la deuxième année sous abri, donne des rendements qui sont très très appréciables, avec une petite restriction peut-être pour les gens qui ont des tout petits poils, parce qu'il faut quand même pouvoir rentrer des sections de 20 cm dans le poil. Une bûche bien séchée tient la nuit sans problème. Le gros avantage du pin noir en plus sur le faillard, c'est que dans une maison froide, la montée en température se fait beaucoup plus rapidement qu'avec du faillard. C'est-à-dire qu'on réchauffe une maison beaucoup plus vite avec du pin noir. Une maison qui n'a pas été habitée pendant une semaine ou 15 jours, où il fait 10-11 degrés quand on arrive dedans, quoi, on arrivera beaucoup plus vite à des températures de 18-19-20 degrés qu'avec du faillard.
Le pin noir n'avait-il pas une mauvaise réputation pour l'encrassement des tuyauteries?
Alors voilà, ça c'est une des choses dont nous parlent les gens qui sont contre le pin noir. Il faut avoir des conduits qui soient en bon état, j'imagine, quoi, mais avec des bons conduits et un bon poêle, il n'y a pas plus d'encrassement qu'avec un autre. Il suffit, comme pour tous ces systèmes de chauffe à bûche, de temps en temps, de faire monter la température, faire un ramonage par an, ça y est, quoi.
Je suppose qu'il vous fera des fonds pour investir, vous avez peut-être des besoins?
Nos besoins, en fait, ça serait actuellement d'avoir une plateforme de stockage et de manutention de notre bois, qui soit le plus près possible de Die, toujours pour privilégier ce circuit court, vu que c'est là qu'il y aura la plus grosse demande à terme. On a besoin d'une fendeuse, Les tronçonneuses, on va servir de notre matériel privé. Quand on a fait les études de marché, on s'est aperçu qu'en fait, ce qui coûtait cher, quoi, c'était toute la manutention qu'il y a autour de ce bois. On croyait au début que l'astère de bois coupé en pin noir serait bien moins cher que le faillard. En fait, ce n'est pas vrai. Entre la coupe, le transport en bord de piste, tout ce qui est débardage, le transport jusqu'à la plateforme et la livraison au client fait que qu'on tombe en gros à 5-6 euros de moins à l'astère, quoi, mais pas plus. Actuellement, le faillard dans la vallée se vend entre 60 et 63 euros.
Tu as parlé de bois bûche. Est-ce que vous aviez comme projet aussi de développer le bois déchiqueté ?
Pour le moment, donc, on va d'abord débuter uniquement avec le bois bûche, en sachant que dans la région, il y a une capacité à produire du bois déchiqueté qui est bien supérieure à la demande. Donc voilà, on n'aurait même pas besoin d'acheter une déchiqueteuse. On pourrait très bien le faire faire par des gens qui ont déjà les outils, quoi.
Vous voulez fournir du bois au Diwa. Mais où est-ce que vous allez le trouver, votre bois ?
On va le trouver dans les forêts qui sont autour de nous. Il se trouve qu'il y a deux types de forêts. Il y a les forêts de l'État qui sont gérées par l'ONF, qui est la majorité dans la vallée, quoi. Et il y a aussi pas mal quand même de forêts appartenant à des privés, souvent des petites parcelles qui sont éparses. On va demander aux particuliers s'ils ont des forêts qu'ils veulent bien nous proposer, en sachant que pour nous, il est hors de question de faire des coupes à blanc, ce qui défigure complètement la montagne, ce qui est vraiment une absurdité esthétique, mais encore plus agronomique. Une forêt qui se retrouve à blanc, qui se retrouve en face au soleil et aux intempéries comme ça, ce sont des terrains qui s'appauvrissent complètement, quoi. Ce qui nous intéresserait le plus, c'est d'avoir des forêts que l'on entretiendrait sur plusieurs années pour permettre une valorisation de la forêt de la personne qui nous l'a confiée. C'est-à-dire de prendre uniquement les bois dont nous avons besoin, de prendre les bois qui empêchent une bonne pousse de la régénération des deuxième et troisième générations. On veut couper en privilégiant toujours ce qu'on a fait sur notre première coupe, c'est-à-dire qu'on garde tous les feuillus, qu'ils soient petits ou grands. Quand on fait des coupes, on fait attention, on fait tomber nos fûts pour pas les abîmer. On crée des îlots quand ce sont des endroits où il y a beaucoup de chevreuils, où on laisse tout le taillis pour que les animaux ne puissent pas venir dedans et manger ces arbustes pour qu'ils puissent se développer correctement. On veut valoriser en fait les forêts des gens pour bien faire revenir tous les 10 ans, tous les 15 ans, ça dépend de l'état de la forêt.
Qu'est-ce que vous allez proposer à un propriétaire d'une parcelle forestière, outre la valorisation de sa surface ?
Soit le payer des fûts que l'on sort de sa forêt, soit le payer en bois bûche. Surtout, il y a cette éthique que l'on veut développer. Il y a du bois dans la région, il y a beaucoup de bois. Et si on veut sauvegarder notre planète, il faut privilégier les circuits courts.
D'autant que, si je ne m'abuse, la chauffe au bois est neutre au niveau du bilan carbone.
Voilà.
Quelle sera la nature de votre prestation pour votre clientèle ? Comment se présenteront vos produits ?
On va présenter en fait toute la gamme. Sachant qu'il faut faire sécher ce bois pendant 2 ans, il y a des gens qui ont de quoi l'entreposer, qui peuvent prendre direct hors bois après la coupe. Ils peuvent même déjà faire la coupe avec nous. Ça leur permettra d'avoir des prix plus bas, quoi. On voudrait bien pouvoir livrer le bois, même pourquoi pas l'entreposer, quoi, pour les gens qui ne peuvent pas le faire. Voilà, la palette est vraiment ouverte. Les gens, ils pourront très bien acheter leur bois en bille de 2 mètres vert, comme ils pourront l'acheter en bûche de 50 ou de 40.
Je suppose que toutes les coupes ne se valent pas, point de vue accessibilité, peut-être.
Une bonne coupe, c'est une coupe qui est longue d'une piste et pas trop pentue. S'il fallait qu'on transporte une 50aine de stères sur 500 mètres dans des marnes ou autres, ce serait vraiment trop compliqué, on ne pourrait pas.
Ce qui fait que quand même, vu le relief accidenté de la région, ça fait une bonne partie de la forêt qui est peut-être inexploitable en fait.
Actuellement oui, mais bon, imaginons que l'association se développe et que l'on arrive à des forts tonnages de coupes. Il faudra peut-être qu'on fasse des lieux d'accès à ces coupes. Une fois que l'exploitation de cet endroit est finie, de reboucher tout ce qui aura été fait, quoi.
Donc c'est possible que quelqu'un vous interpelle et vous demande, je voudrais 3 stères pour cette année.
Voilà, pour le moment, on est une petite dizaine, donc entre les organisateurs et certaines personnes qui avaient répondu à notre questionnaire, on a une demande actuellement d'une petite 50aine de stères qui sera livrée dans 2 ans, prête à la chauffe pour l'hiver d'après, quoi.
Qu'est-ce que vous allez faire pour réhabiliter ce pin noir auprès de la population d'Iwaze ?
Des réunions. Et puis aussi, par exemple, sur la coupe qu'on a fait dans le Haut-Diwa, à Mont-Lahuc, ces jours derniers, on a tombé les fûts et on les a laissés avec leurs branches et leurs épines pour qu'ils sèchent pendant tout l'été. Début septembre, il va falloir que l'on monte là-haut et qu'on ébranche, qu'on coupe et qu'on apporte tout sur le bord de la piste. On va essayer de se faire connaître à ce moment-là en faisant un grand pique-nique. On va essayer de faire venir des gens pour faire le débardage avec des mules. Plusieurs activités comme ça pour se faire faire connaître.
Et si d'aventure quelqu'un était intéressé, comment ferait-il pour se mettre en contact avec vous ?
Il peut me contacter, moi, par exemple, Philippe Mérec, 09 71 36 41 57.
Merci, au revoir.
Merci à toi. Oh, oh, yellow,
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Soutenue par BioVallée.
Bon, vous êtes toujours à l'écoute de Biotope sur Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Ça fait plaisir des gens qui ont la foi.
Ah oui, oui, tout à fait. Et enfin, c'est vraiment un beau témoignage. Ce que je retiens, c'est qu'on s'aperçoit que... Au départ, il était persuadé que prendre le bois le plus proche, ça allait diminuer les coûts par deux, voire même plus, par rapport à faire venir effectivement du bois du hêtre ou du chêne qui vient du plus haut, du Jura ou du Beaujolais. Et puis et il s'est vite aperçu que les hommes, il faut les payer et ça demande. Et les conditions qu'on a pour exploiter du bois ici dans le Diois ne sont pas évidentes et que le transport, la différence de transport, c'est rien du tout. Et donc là, vraiment un message qu'il faut retenir, c'est que du bois ici on peut, mais il ne faut pas se leurrer, ça va être, c'est pas si simple avec les conditions qu'on a.
Vous nous citiez tout à l'heure des partenaires institutionnels importants, le département, la région. On fait tous ces constats-là. Ouais. Quels moyens peuvent être mis, en tout cas par ces gens-là, pour que cette exploitation se fasse, sachant qu'on a cette ressource quand même localement là,
Alors, en fait, par exemple, le département de la Drôme soutient activement la filière bois et essaye, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, d'identifier toutes les surfaces en Drôme qui pourraient te permettre d'exploiter du bois par câble. Alors c'est un système un peu innovant où au final on met comme une petite grue sur une remorque et on met des câbles dans les pentes et les arbres sont abattus donc certes par des bûcherons qui sont dans la pente mais sont sortis avec un câble et ramenés au bord des routes soit en haut soit en bas du câble. Et ça permet de faire des coupes dans des zones où personne ne pouvait aller jusqu'à présent, et donc de valoriser vraiment nos territoires. Donc actuellement, ils sont en train de regarder justement où sont toutes ces zones, et définir des subventions qui pourraient mettre à disposition, soit pour les propriétaires ou pour des entreprises, pour pouvoir réaliser ces types de travaux.
Donc, ça concernerait toutes les forêts, là. C'est pas uniquement des études faites sur les parcelles de l'ONF, par exemple.
Non, parce que je pense que derrière, alors ça après, je sais pas, je peux pas trop dire à leur place, mais derrière, si l'idée c'est d'aider des entreprises ou des associations comme celle qu'on vient d'entendre à investir dans du matériel pour faire pour réaliser ces chantiers, derrière après, ça sera l'entreprise qui elle viendra, restera, choisira où est-ce qu'elle veut aller travailler. Si on reprend l'exemple de l'association, si elle arrive à s'équiper, elle pourra très bien continuer le cheminement qu'elle nous a expliqué de venir dans des propriétés privées et d'exploiter le bois. Donc on a des systèmes qui, maintenant on a quand même grâce aux machines des systèmes qui arrivent qui nous permettent d'aller dans des surfaces difficiles. Donc ça va être maintenant un peu l'enjeu pour demain hein, de réussir à aller dans ces parcelles-là. Quoi.
Je vous propose une deuxième petite pause musicale avec Loving Guide de Mazgani. Sometimes I forget your advice to be kind to the cruelness I bring inside. I stand with sadness every passerby. You tell me to pretend to be wise. You've been blessed with a heart that is bright. Your deeds are few, your acts what is right. You sit on the throne of his mind. Look down upon this burning soul of mine and be my loving God. Alors, je connais pas trop bien les statistiques d'équipement collectif en matière de chaufferie, mais par contre, j'en ai une concernant les ventes d'appareils de chauffage en bois individuels qui progressent d'environ 5% par an. Aujourd'hui, il y a près de 6 millions de ménages qui utilisent un appareil de chauffage au bois, la plupart du temps en complément d'une autre source d'énergie. Donc, c'est une énergie qui, effectivement, a le vent en poupe. Alors, est-ce que, justement, y aurait-il une vision globale qui permettrait, par exemple, à l'ONF et aux propriétaires privés de s'associer pour exploiter de façon rationnelle un versant ou un espace ?
Pour exploiter, donc, pour les versants, ce qui existe maintenant, c'est ils mettent en place soit des chartes, soit des études justement de ressources au niveau d'un versant bien identifié, et ils mélangent que ce soit les parcelles communales de l'État ou les forêts privées, et justement derrière ils définissent un peu des stratégies de développement au niveau de ces versants, et ça permet des fois de réaliser des coupes mixtes. C'est-à-dire qu'un exploitant forestier va venir au même moment exploiter une petite parcelle de forêt communale et qui est attenante à une parcelle privée. Et puis si les deux propriétaires, donc la commune et le particulier, sont d'accord, l'exploitant va réaliser une coupe sur le même secteur.
Très bien. Bon, après avoir abordé tout cet aspect forestier sur lequel on aurait pu passer des heures, écoutons maintenant le témoignage de monsieur Olivier Girard, maire de Saint-Julien-en-Quin, qui nous parle du choix opté par sa commune pour chauffer ses infrastructures.
En compagnie de Olivier Girard, maire de Saint-Julien-en-Quin, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ensemble pour parler de l'installation que vous avez acquise à la mairie de Saint-Julien, à savoir une chaudière bois déchiquetée pour l'ensemble de vos infrastructures. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ?
La chaudière date de 2004, l'époque où la municipalité précédente a rénové entièrement le bâtiment mairie, salle des fêtes, école, et a construit à l'occasion une école neuve.
On se trouve devant, c'est ça que les auditeurs peuvent entendre, donc vous étiez en train de m'expliquer un peu comment ça fonctionne.
La chaudière, en fait, prend son bois, qui est du bois déchiqueté, c'est-à-dire passé au broyeur, au fur et à mesure des besoins, dans un silo qui se trouve à côté. Elle atteint une certaine température en fonction des besoins, et selon les phases, elle se met en veille, comme elle est en train de le faire actuellement, ou bien elle est en combustion. Et ensuite, l'eau chaude est distribuée dans l'ensemble des bâtiments comme une installation de chauffage classique. Le bois, lui, est livré aux alentours d'une fois par mois, par petite quantité dans la mesure où on a un petit silo qui donne sur le côté rue. Le bois est vidé à travers une trémie qui est dans le trottoir et il est livré par des agriculteurs de la commune qui ont constitué à l'échelon départemental une CUMA pour acquérir un broyeur. Du coup, on a plusieurs chaudières bois déchiqueté dans la vallée qui sont alimentées à partir de bois broyé par les agriculteurs de la vallée.
C'est un point important, effectivement. Alors, ça veut dire qu'il y a la production et la consommation dans la vallée de Quin est quasiment 100% locale ?
Oui, essentiellement. Oui.
Ceci a été fait avant que la mairie acquière une chaudière à bois déchiqueté, ou alors ?
C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'en 2004, il n'y avait pas de volonté particulière de faire du bois déchiqueté dans la vallée. Au fur et à mesure de la mise en service de plusieurs chaudières bois déchiqueté dans la vallée, il y a eu cette opportunité-là qui s'est fait jour pour les agriculteurs pour diversifier leur activité. Donc, ça, c'est, dans un premier temps, la commune achetait le bois déchiqueté à Vassieux, sur le plateau du Vercors, et donc avec une livraison qui se passait bien, de bonne qualité, avec une bonne régularité. Puis ensuite, c'est l'entreprise de Aurel, Lionel Seignier, qui nous a livré le bois. Maintenant, disons qu'on travaille encore plus local, puisque ce sont des agriculteurs de la vallée.
Pourquoi un choix de chaudière à bois déchiqueté ? Est-ce que c'est parce que c'est la mode particulièrement ou
C'était pas vraiment la mode en 2004. Il y a eu une volonté de mettre en place ce type d'équipement parce que certaines personnes au conseil municipal de l'époque avaient cette sensibilité-là. Parce que le maire de l'époque, monsieur Delinger, était ouvert à, on va dire, ces nouvelles technologies, puisque bien qu'on chauffe au bois, c'est du matériel qui est pointu, qui a un bon rendement, qui a des dispositifs de régulation tout à fait performants. Donc on n'est pas du tout sur une vieille technologie obsolète, alors qu'on parle de chauffage au bois. Donc il y a eu cette volonté d'essayer d'aller de l'avant, et puis il y avait l'aspect économique qui comptait, hein. Il y a eu des aides à l'époque pour l'investissement qui ont été très difficiles à avoir, puisque le projet a failli ne pas se faire, le dossier a été retoqué et a été très très compliqué à monter, et au final, il y a quand même eu des aides de l'ADEME, et de la région et du département.
Quels sont justement les problèmes rencontrés ?
Je pense qu'il y a un gros décalage entre les besoins pratiques sur un lieu, hein, que ce soit pour une commune ou pour une structure qui fait de l'accueil ou des choses comme ça, puisque on trouve ce type de projet aussi dans le domaine privé ou associatif. Donc il y a un décalage entre les besoins concrets et puis les durées d'instruction de dossiers qui sont parfois regardées avec des critères très bureaucratiques, on va dire. Les règles du jeu ont tendance à changer un peu en cours de route.
Il n'y a pas une volonté supérieure parce qu'on va justement vers des technologies d'énergie renouvelable.
On ne peut pas dire ça dans la mesure où au final, il y a des aides qui sont quand même en général plus significatives que si on installait une chaudière fuel ou une chaudière gaz. Mais c'est vraiment un parcours long, tortueux et qui demande beaucoup d'énergie. Après, dans la mesure où ça se traduit par une aide effective, on peut considérer qu'il y a une volonté. Elle est souvent pas complètement en adéquation avec le planning nécessaire à la réalisation d'opérations.
Pour revenir un peu sur la chaudière maintenant, vous nous parliez tout à l'heure d'une livraison par une trémie à l'extérieur, donc c'est aussi facile qu'une chaudière à fuel finalement, et ça demande pas tant de manutention.
Alors c'est pas tout à fait vrai, on pourrait dire que le chauffage avec du granulé de bois est à peu près aussi facile en termes d'approvisionnement que du chauffage fuel. Pour le bois déchiqueté, on est obligé actuellement de livrer par gravité parce que le bois déchiqueté ne peut pas se souffler facilement. On a quand même des contraintes d'installation. Il est fortement recommandé que la chaudière et le silo soient sous le niveau de livraison. D'autre part, le bois déchiqueté prend beaucoup plus de place pour la même énergie stockée que le fuel. On est obligé d'approvisionner plusieurs fois par an.
Pour Saint-Julien-en-Quin, la chaudière chauffe quelles infrastructures ? À peu près quel volume, vous savez ?
Oui, alors on chauffe le bâtiment, mairie, salle des fêtes et bureau à l'étage, plus l'école, plus depuis l'hiver dernier, un bâtiment qui regroupe deux logements et notre espace public internet. Je saurais pas vous dire les volumes comme ça, mais on chauffe l'ensemble de ces bâtiments avec 120 à 130 mètres cubes apparents de bois déchiqueté. Donc on a une facture de bois qui est inférieure à 3 500 € par an.
Alors est-ce que ce type de chaudière sous-entend aussi une installation particulière dans les bâtiments ? Il y a une autre manière de distribuer la chaleur ?
Non, on est sur un chauffage central tout à fait classique au-delà de la chaudière. C'est-à-dire que là, on a plusieurs départs, un vers ce bâtiment-ci, un vers l'école, un spécifique à la salle des fêtes, et puis un réseau de chaleur qui distribue le bâtiment dont je parlais, qui est situé à 100 mètres d'ici. Donc on se trouve dans un schéma complètement classique en termes de chauffage.
Est-ce qu'on peut imaginer que la chaudière puisse être branchée sur encore d'autres infrastructures ? Elle est suffisamment grosse ou vous aviez prévu une marge ?
Non, alors en 2004, on n'avait pas prévu de marge, mais dans la pratique, il y a toujours une petite marge qui est prévue. Donc ça nous a permis de raccorder le nouveau bâtiment là, l'année dernière, qui lui a été construit avec une très bonne isolation, donc qui est peu de demandeur d'énergie. Là maintenant, on ne pourrait pas avec cette chaudière-là chauffer d'autres volumes de façon significative.
Est-ce qu'au niveau entretien, cette machine est efficace ? Enfin, est-ce que c'est un bon investissement ?
On n'a eu aucune mauvaise surprise. Pour l'instant, il n'y a eu aucune pièce spécifique de changer sur la chaudière. Sur l'installation de chauffage, on a un circulateur qui a dû être changé. Voilà, ça fait partie de l'entretien complètement normal et qui n'est pas dépendant de ce type de chaudière. L'entretien, il se résume à vider le cendrier et à faire un nettoyage très rapide du foyer qui demande 5 minutes. Et ça, une fois toutes les 3 semaines ou une fois tous les mois. Et puis, ça demande un entretien annuel qui est fait par une entreprise, comme toute installation de chaudière. En termes de panne, il est arrivé une fois que la chaudière tombe en panne pour blocage d'une vis, parce qu'une pierre était mélangée au bois et qu'elle a fini par bloquer une des vis. Il a suffi d'intervenir, d'enlever la pierre et c'est reparti.
Donc, 6 ans après le démarrage de la chaudière, c'est une expérience à refaire, enfin vous le referez de la même manière quoi.
Ah oui, oui.
Et bois déchiqueté.
Ah oui, bien sûr. Je pense qu'à chaque fois qu'il est possible de mettre en place du bois déchiqueté, c'est une énergie qui non seulement est la moins chère, mais aussi demande le moins d'énergie pour être distribuée.
Voire même pas d'infrastructure.
Effectivement, le granulé est un produit industriel. Le bois déchiqueté, par contre, demande une certaine rigueur. C'est-à-dire que les fournisseurs de bois déchiqueté doivent être équipés d'un minimum de places de séchage et veiller à sécher le bois dans de bonnes conditions. De même, on se rend compte que on a des qualités de combustion différentes, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais on est obligé de modifier parfois des réglages de chaudière si on a des bois très différents, ou bien par exemple si on passe sur du petit bois qui contient beaucoup d'écorce, on n'aura pas la même combustion que si on est sur des bois plus gros qui ont été broyés. Donc ça demande quand même un sérieux de la filière d'approvisionnement du bois déchiqueté. Dans certains cas, du bois trop humide peut poser problème, quoi. Une chaudière est prévue pour brûler du bois sec. Qu'il soit déchiqueté ou pas.
La chaudière brûle tout, que ce soit du résineux ou du feuillu ?
Oui, elle peut brûler aussi bien du résineux que du feuillu. Le bois déchiqueté permet très facilement de valoriser du résineux. La chaudière adapte sa combustion à l'aide d'une sonde lambda qui analyse le taux d'oxygène dans les fumées de façon à brûler un maximum de bois. On le voit bien, les cendres sont très fines. Il y a un cendrier qui représente quelques litres toutes les 3 semaines. Ce qui prouve bien que tout est très bien brûlé.
Bon, une solution pour le résineux, localement, c'est quand même une grosse manne.
Oui, 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 oui. Moi, je pense que le DIWA a vocation à développer ce type de chauffage. Et alors, ça demande une infrastructure un peu lourde. Donc, c'est plutôt le bois déchiqueté, hein, par rapport au granulé, par exemple, qui est plus souple d'installation. Le bois déchiqueté réclame une installation en triphasée, réclame de la place pour le silo, des contraintes d'approvisionnement qu'on évoquait tout à l'heure en termes de niveau. Donc c'est plutôt réservé à des grosses maisons ou des ensembles de maisons ou dans le collectif, c'est idéal. On est plutôt en accroissement des forêts dans le DIWA, que je sache. Ceci dit, chauffer au bois, ça ne veut pas dire gaspiller l'énergie. La première chose à faire, je dirais, c'est de concevoir des bâtiments bien isolés qui demandent peu en chauffage. Parce que même si on utilise du bois déchiqueté local, autant l'économiser.
Olivier Gérard, merci beaucoup pour ces explications.
Mais de rien.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Après ce beau petit reportage, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Petit ?
Il a un petit peu tout évoqué. Hein. C'est vrai qu'une chaudière bois déchiqueté, déjà sur la Drôme, on en a plus de 200 hein, d'installés dans le collectif, que ce soit du collectif public ou privé, depuis maintenant 15 ans hein, presque. Au début, les communes, il fallait vraiment y croire, parce que c'était tout nouveau. Maintenant, de plus en plus, on commence à avoir un bon retour d'expérience, que ce soit au niveau de la filière d'approvisionnement sur comment faire du bon combustible, ou même au niveau de la technologie des chaudières, qui sont maintenant des technologies vraiment très innovantes. Et
comment est-ce qu'on invite les gens à se tourner vers un matériel comme ça, de pointe, qui demande, on l'a entendu, des infrastructures lourdes. Je ne sais pas si toutes les municipalités sont prêtes à faire le plongeon, mais comment les inciter maintenant ?
C'est vrai que déjà, il faut le rassurer, j'ai envie de dire, les communes, dans le sens où elles peuvent être vraiment accompagnées du début à la fin, même de leur réflexion jusqu'à la première mise en chauffe.
Ça n'a pas l'air d'être si facile que ça, quand même.
Non, quand je dis accompagnées, c'est-à-dire qu'on a, du point de vue au niveau de la chaudière, on a un espace info-énergie qui existe à Androme, qui s'appelle l'ADIL 26, enfin pour le secteur du DIWA, qui a une personne compétente là-dedans et qui peut aider n'importe quelle commune à au moins identifier le besoin qu'il y aurait et un petit peu l'investissement. Moi, de mon côté, en fait, mon travail, c'est comme il l'a dit, c'est que c'est une technologie de pointe. Et derrière, le combustible, il faut qu'il suive. Quoi. Il faut que ça soit un combustible parfait. Mon travail, ça va être d'accompagner soit la commune pour l'aider à faire en sorte qu'elle demande le bon combustible qui convient à sa chaudière. Et puis de l'autre côté, je vais aller voir aussi les producteurs pour les inciter à faire un combustible parfait, c'est-à-dire sans cailloux, du bois sec, calibré, qui correspond parfaitement à l'installation. Donc c'est vrai que là, c'est fait deux personnes sur le territoire qui peuvent, en plus des autres hein, animateurs qui peuvent être des relais sur le territoire du DIWA, qui peuvent accompagner les communes. Donc c'est accompagné sur un point de vue technique. Après, c'est vrai que derrière, il y a souvent la grosse question du financement, quoi.
Et au point de vue économique, en fonctionnement, est-ce qu'ils s'y retrouvent, ces communes qui investissent dans le bois à énergie ?
La plupart du temps, ces projets ont un retour sur investissement inférieur à 8 ans pour une chaudière qui tourne au moins 20 ans. Et derrière, avec des économies d'énergie vraiment très intéressantes, parce que ça veut dire qu'au bout de la 9e année, l'investissement est remboursé et donc toute l'économie générée par le bois à la place du fioul est directe. On a environ 1 mètre cube donc, de bois broyé. Dans le secteur est entre 24 et 26 euros, équivaut en fait à 100 litres de fioul derrière, ce qui nous donne une énergie à 3 centimes du mégawattheure, si on veut parler en énergie. Par contre, là, il faut quand même savoir que pour le fabriquer, on consomme quand même un petit peu d'énergie fossile. Si on prend tous les stades de fabrication, c'est-à-dire l'abattage, le débardage, qui est donc la sortie des bois, le broyage du bois, puis après le transport, donc jusqu'à la plateforme, puis le transport après jusqu'au silo, on va consommer par mètre cube de bois broyé en moyenne 5 à 6 litres de fioul. Donc si même en arrondissant, parce qu'on a des reliefs assez compliqués, en mettant 10 litres de fioul, c'est-à-dire que pour 1 mètre cube de bois broyé qui énergétiquement équivaut à 100 litres de fioul, on n'en consomme que 10. Donc il en reste quand même encore 90 litres de fioul économisés via cette technologie et cette filière locale. Donc ce qui est quand même très rentable pour des communes. Après, c'est vrai qu'il faut un peu de place pour faire, comme disait le monsieur, du silo. Maintenant, le système par bénage permet à qui que ce soit, enfin un producteur, de venir avec un camion, il benne et en 10 minutes, il a rempli complètement le silo et il est reparti. À la place de avant les camions fioul où le camion tournait pendant 45 minutes, une heure, le temps de remplir toute la cuve. Donc c'est vrai que certes, le producteur va revenir peut-être tous les mois ou tous les deux mois pour recharger le silo et c'est fini.
Quand Fibois offre son suivi technique, est-ce qu'elle offre aussi un suivi administratif justement pour ce dédale administratif qu'a décrit Monsieur Girard ?
Oui, de toute façon, là, pour j'ai bien vu et compris que le problème, là, ça avait été tout, par exemple, de monter le dossier de subvention. Donc, à ce niveau-là, on accompagne, que ce soit l'ADIL 26 ou moi, on va accompagner pour réaliser les dossiers de subvention avec eux, leur demander, les aider à assembler toutes les pièces justificatives et on fait le relais au point de vue du côté des financeurs, que ce soit la région, l'ADEME ou le département. On va servir d'interlocuteur et faire en sorte de ne pas bloquer le projet. Et peut-être par rapport à... Donc j'ai vu qu'il avait eu des soucis en 2004. Actuellement, c'est vrai qu'on essaye d'avoir un peu d'avance et d'essayer de voir, avant même de poser un dossier, si ça va poser problème ou pas.
Je suppose que toutes ces réglementations changent d'année en année, mais qu'est-ce que peut espérer une commune aujourd'hui comme taux de subvention par rapport à ses travaux ?
Bah ça, c'est donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que c'est vrai que par rapport à une commune, si elle se renseigne par rapport aux autres chaufferies qui ont été faites depuis 15 ans, les taux ne font que diminuer. Actuellement, une commune, juste pour l'investissement de la chaudière, peut espérer, on va dire peut-être jusqu'à 30%, voire peut-être un peu plus, en essayant d'additionner plusieurs subventions avec des territoires, avec des axes stratégiques différents. Mais on va tourner, voilà, pour faire ça, on va tourner autour de 30%. Après, il faut savoir aussi que l'étude avant préalable de bureau d'études thermiques, elle est financée quasiment jusqu'à 70%. Donc ça permet à une commune d'au moins réaliser l'étude, d'avoir la première phase, quoi, de savoir si ça vaut le coup ou pas.
C'est un sujet vaste et bien loin d'être épuisé en une heure, mais il est temps de se quitter. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci d'avoir suivi cette 4e émission Biotop sur RDOA et sur Radio Saint-Férol, produite comme d'habitude en partenariat avec BioVallée. Je vous rappelle que l'émission est écoutable et téléchargeable sur notre site internet www.rdwa.fr. Prochain rendez-vous avec Biotop le dernier jeudi du mois de mai avec l'équipe de Saint-Féréol aux commandes. Quelques autres petits merci à Baptiste à la technique.
Merci Louis.
À Mathieu Petit d'avoir fait le déplacement depuis le bas de la vallée.
Merci.
Et puis à Monsieur Méret, Monsieur Tabouret et Monsieur Olivier Girard d'avoir accepté de participer à cette émission. Au revoir.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Féréol.
Biotop. Un programme soutenu par BioVallée.